Je passe à l'article 39 de la confession gallicana. C'est la 9e partie, c'est les articles 39 et 40. Ce sont deux articles sur l'autorité civile, sur la police civile. Et au fond, vous voyez, cette confession s'achève sur le gouvernement civil, qui témoigne du souci qu'ont les églises réformées de la vie civile. L'article 39. Nous croyons que Dieu veut que le monde soit dirigé par des lois et des gouvernements afin qu'il y ait quelques freins pour réprimer les appétits désordonnés du monde. Nous croyons donc que Dieu a institué les royaumes, les républiques et toutes autres sortes de principautés, héréditaires ou non, et tout ce qui appartient à l'état de la justice, et qu'il veut en être reconnu l'auteur. Dans ce but, Dieu a mis le glaive dans la main des magistrats pour réprimer les péchés commis non seulement contre la seconde table des commandements de Dieu, mais aussi contre la première. Il faut donc, à cause de Dieu, non seulement qu'on supporte que les autorités exercent la souveraineté de leur charge, mais aussi qu'on les honore et les estime d'un profond respect, les considérant comme ses lieutenants et officiers qu'il a établis pour exercer une charge légitime et sainte. Vous voyez, cet article 39 n'est pas très révolutionnaire. Il proclame la nécessité d'un pouvoir temporel institué de Dieu. Par, il traite donc de l'État. Par l'État, il faut entendre une étendue de pays, délimitée par une frontière, où s'exerce une autorité souveraine, ayant le pouvoir du glaive. La foi réformée admet qu'il y a des ordonnances de création. Comme il y a des ordonnances de rédemption, il y a des ordonnances de création. L'humanité a reçu une vocation double, celle de grand prêtre et celle de grand roi, et celle, si vous voulez, de roi de la création, ne serait-ce que par les deux impératifs de la Genèse, sanctifier, dominer. L'Église répond à la fonction sacerdotale de l'humanité, à l'impératif de sanctifier, et l'État à la vocation royale, à savoir dominer. Seulement, il y a eu le péché qui a tout gâché, qui a tout oblitéré, mais les ordonnances de création demeurent. Et le pouvoir temporel, en théologie réformée, institué en raison du péché, est considéré comme un moyen de grâce. Un moyen de grâce extérieur. Le pouvoir temporel est un moyen de grâce extérieur dont Dieu se sert pour notre salut. En punissant le mal, le magistrat est ministre de Dieu. En punissant le mal, il préserve les libertés. Cet article, ce présent article 39, et le suivant, prennent au sérieux, évidemment, les fameux passages de Romains 13, versets 1 à 7, et les passages de 2 Pierre 2, versets 10 à 14. Et évidemment aussi l'épître de Jude. Mettons alors, j'ai dit 2 Pierre, faites-en 1 Pierre si vous voulez. 1 Pierre, je dis.
Même si le magistrat est inquiet, il ne faut pas en Dieu.
Voilà. Dieu a constitué les rois comme protecteur du roi ou du gouverneur, comme protecteur de l'Église chrétienne. Cependant, il n'y a pas de système politique privilégié. Non seulement la confession ne choisit pas entre royaume, c'est-à-dire un système de monarchie et république, mais elle laisse même, dans sa générosité, la porte ouverte à toute autre sorte de gouvernement, les principautés, hérédité, union, etc. La confession souligne ici la relativité des formes différentes du gouvernement. La seule exigence est que cela corresponde à l'état de justice et tout ce qui appartient à l'état de la justice. Il faut qu'il y ait un ordre réglé par des lois. Et alors c'est très curieux, ces articles sont évidemment, comme Florian déjà nous y a entraîné depuis ce matin, il est le moteur des cours. Ces articles sont étonnants, 39 et 40, parce qu'ils sont tout à fait anachroniques par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous savez, mais les professeurs de la faculté ici doivent signer la confession de La Rochelle pour enseigner la vérité, d'où l'importance de cette confession, mais on leur demande de ne signer que les 38 premiers articles, et pas les 2 derniers, ce que nous sommes en train d'étudier. Parce qu'on pense que ces 2 derniers méritent soulèvent quelques problèmes, et que dans un système normal, si les églises réformées étaient confessantes et dans un état normal dans ce pays, eh bien, elles s'attacheraient à réviser ces 2 derniers articles. Alors donc, je dis ça pour vous rassurer, il y a des difficultés que... D'ailleurs, dans les autres pays, dans les autres confessions de foi, il y a des synodes qui ont révisé les derniers articles. Parce que sont remarqués par l'époque d'un temps. C'est très curieux, aujourd'hui et dans tous les régimes, on voit, surtout dans l'État, celui qui doit encourager la consommation. Ça, l'État, aujourd'hui, souvent. Celui qui doit planifier la production et qui est le moteur ou l'accélérateur de l'expansion. Or, c'est un rôle opposé qui est assigné à l'État, me semble-t-il, dans l'article 39, c'est celui de frein. L'État est un frein, je cite, pour réprimer les appétits désordonnés du monde. Vous voyez, Dieu a imaginé cette espèce d'expédient qui est l'État pour qu'il y ait une sentence arbitrale de conflit entre les hommes. Vous le voyez, le rôle de l'État est ici essentiellement répressif. Cette conception est liée au refus de considérer que la société évoluerait comme ça, spontanément, vers le bien, en faisant quelques aménagements pour l'aider à ne pas mourir. Alors, quel est ce mal que le magistrat est chargé de réprimer? Ce n'est pas seulement celui qui consiste à transgresser les commandements de la seconde table de la loi. Je ne sais pas si c'est une chose qui est claire à vos esprits. On considère qu'il y a deux tables de la loi, une première table qui est relative à Dieu et une deuxième table qui est relative au prochain. Ça va, ça? C'est quelque chose qui vous éclaire? Alors ici, au fond, ce n'est pas seulement... Le magistrat n'a pas seulement la charge de réprimer ceux qui transgresseraient la seconde table de la loi, c'est-à-dire les commandements relatifs au prochain, les commandements de portée plus particulièrement sociale, mais, ça c'est très curieux pour nous, le magistrat, c'est aussi celui qui veille à ce que ne soient pas bafoués les commandements de la première table de la loi. Je n'invente rien, hein, c'est au milieu. Dieu a mis le glaive dans la main des magistrats pour réprimer les péchés commis non seulement contre la seconde table des commandements de Dieu, mais aussi contre la première. Ça veut dire que le magistrat doit s'occuper de la première table, c'est-à-dire des commandements relatifs à Dieu, commandements qui sont de portée essentiellement religieuse. La confession reconnaît une mission divine au pouvoir temporel. Mission divine tant sur le plan religieux qu'en matière civile. En d'autres termes, le programme, le pouvoir temporel n'est pas institué seulement pour maintenir l'ordre, mais encore le pouvoir temporel est là pour étendre le règne de Dieu. C'est ça. Hein? Pour étendre le règne de Dieu, pour faire respecter sa volonté pour sanctifier son nom. En s'exprimant ainsi, notre confession est tout à fait tributaire des conceptions de son temps. Elle s'inscrit dans un corpus de chrétienté, le corpus Christianorum. Ah, elle est là, dans un... d'ailleurs, ça suffit, Christianum, ça suffit d'ailleurs. On s'inscrit ici dans un corps de chrétienté, c'est ça. Où il n'y a pas séparation entre, très nette comme aujourd'hui, entre Église et État, et où le magistrat est chrétien. À Genève, le magistrat est chrétien. C'est pourquoi il va avoir ses idées particulières, quelquefois très différentes, par exemple, de celles de Calvin. Évidemment, c'est une question difficile. Parce qu'aujourd'hui, on voudrait faire respecter par l'État la deuxième tablette de la loi et pas la première. Et seulement, est-ce qu'on peut absolument aussi séparer aussi nettement les deux tables de la loi sans dénaturer la loi? Voici donc l'article 39. Je passe à l'article 40 qui lui est lié. Nous affirmons donc qu'il faut obéir à leurs lois et règlements, payer taxes, impôts et autres charges, et consentir à cette obéissance d'une bonne et franche volonté. Quand même il serait infidèle, pourvu que la souveraineté absolue de Dieu demeure entière. Ainsi nous réprouvons ceux qui voudraient rejeter toute hiérarchie, établir la communauté et le mélange des biens et renverser l'ordre de la justice. Contrairement aux enseignements des anabaptistes, les anabaptistes qui voulaient vivre en dehors normalement de l'État, mais qui en fait souvent n'ont pas été conséquents jusqu'au bout, et qui se sont appuyés sur le pouvoir public toutes les fois où cela leur était possible. Mais enfin, contrairement aux enseignements des anabaptistes, pour les réformés du XVIe siècle, les pouvoirs temporels doivent être respectés et obéis, quand même ils seraient infidèles, pourvu que l'empire souverain de Dieu demeure en son entier. Luther ne dit pas autre chose que ce texte. Au fond, les réformateurs ont cru à la possibilité d'un État chrétien. C'est encore la conception médiévale. Question ici, la confession de La Rochelle est-elle réactionnaire? Je pense que oui. Dans la mesure où elle réagit contre la tentative toujours actuelle d'identifier l'action politique et avec la préparation du royaume de Dieu. Oui, et la confession de La Rochelle était réactionnaire. Oui, je réponds oui, dans la mesure où elle réagit contre la tentative toujours actuelle d'identifier l'action politique avec la préparation du royaume de Dieu. Évidemment, là, je fais exprès de m'attaquer à toutes les théologies politiques qui voudraient installer le royaume de Dieu sur terre. Alors, dit, par rapport à ça, j'en ai deux. Mais c'est évident qu'on est là, face à une espèce de néo-constantinisme où il y a une distinction qui n'est pas faite entre l'Église et l'État d'une manière très nette. Le problème ici, c'est l'interpénétration du temporel et du spirituel et de la cité de l'Église dont témoignent ces deux articles de la Confession Vaticane. Cette interpénétration est si grande que, au fond, ils ont omis de mentionner et le gêne les réformés actuels vis-à-vis de ces deux articles qui se situent ici, ils ont oublié de mentionner le droit et le devoir de résistance. Ils ont oublié de mentionner la fameuse clausula petri, la fameuse formule de Pierre. On appelle en théologie clausula petri, la formule de Pierre, cette réserve qui s'inspire de la réponse de l'apôtre Pierre au Sanhédrin, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte des apôtres, chapitre 2, verset 29. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et alors que mille ans plus tôt, M-E-L-A-N-C-H-T-H, toujours, alors que Melanchthon, dans la Confession d'Augsbourg, envisage un certain droit de résistance aux autorités civiles, aux ordres des autorités civiles, la Confession de La Rochelle n'imagine pas que le pouvoir temporel serait capable, dans certaines circonstances, d'agir contre les intérêts de l'Église et de son Seigneur. N'est-ce pas? C'est ce que dit l'article 16 de la Confession d'Augsbourg. Les chrétiens sont tenus d'être soumis aux autorités et d'obéir à leurs ordres et à leurs lois en tout ce qui peut se faire sans péché. Car si les commandements des autorités ne peuvent être suivis sans péché, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà ce que dit la Confession d'Augsbourg. Et la Confession de Westminster, dans son article 5, dit « Le Seigneur seul est maître des consciences ». On doit l'obéissance au roi en toute chose, hors le cas de la conscience. Où le glaive du prince ne s'étend point. Alors évidemment, il y a, par rapport à ce que je viens de dire, deux bémols. Il y a quand même cette phrase, pourvu que la souveraineté absolue de Dieu demeure entière. Et il y a, et ceci alors est mal vu par les critiques de la Confession de La Rochelle, il y a quand même l'article 26, à mon avis. Dans l'article 26, page 49, article 26 sur l'unité de l'Église, on dit que chacun ne doit pas se tenir à l'écart, se contenter de sa personne, mais que tous les fidèles doivent ensemble garder et maintenir l'unité de l'Église en se soumettant à l'enseignement commun et au joug de Jésus-Christ. Et cela partout où Dieu aura établi un ordre ecclésiastique véritable, alors même que les pouvoirs publics et leurs lois y seraient opposés. Et je propose de ne pas séparer les articles 39 et 40 de cet article 26 qui prône une théologie de la résistance au pouvoir temporel. Hein, l'article 26 qui dit que participer à l'Église, il faut le faire, on doit le faire, quand bien même les pouvoirs publics et leurs lois y seraient opposés. Il y a soumission au pouvoir temporel, certes, mais dans la mesure où le pouvoir ne s'oppose pas aux ordres de Dieu. Ça veut dire que le magistrat, dans l'exercice de ses fonctions, est ministre de Dieu dans la limite où il ne contrevient pas au commandement de Dieu. Alors donc je propose de lire en synopse ces derniers articles avec l'article 26 pour qu'il soit bien entendu que le magistrat doit être obéi dans la limite de la réserve, de la formule réserve de Pierre, ça n'est pas. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Alors on dit voilà, on n'avait jamais vu l'Antiquité, on ne savait pas ce que c'était, après c'est, et après 1000 ans d'obscurantisme, paf, on redécouvre l'Antiquité.
Pas du tout.
Qui c'est qui a transmis l'Antiquité à la Renaissance? C'est le Moyen-Âge, en fait. Ce sont les moines qui, au Moyen-Âge, ont recopié les écrits de l'Antiquité, à la fois païenne et chrétienne, et si on les redécouvre à la Renaissance, c'est qu'on ne les a jamais perdus. On ne fait pas de grandes fouilles archéologiques au Moyen-Âge, à la Renaissance, pour retrouver l'Antiquité. L'Antiquité a été transmise précisément par ce Moyen-Âge honni. Pourquoi est-ce que le Moyen-Âge ne vit pas selon l'Antiquité? C'est pas parce qu'il ne connaît pas l'Antiquité, comme on nous dit dans les manuels. C'est que le Moyen-Âge ne veut pas vivre comme l'Antiquité. Parce que le Moyen-Âge dit, nous ne voulons pas vivre comme ces païens ont vécu, mais nous voulons vivre une société chrétienne. Et donc voilà, bon, on verra ça en 2 ans. Mais nous sommes face à une société chrétienne où le magistrat est chrétien. Et même si le magistrat est catholique, il est chrétien quand même. Au XVIe siècle. Vous avez vu, on l'a vu chez Calvin, c'est comme ça. Hein? Le magistrat, il est chrétien, il est chrétien, et non seulement il est chrétien, mais encore, il est l'ancien obligatoire. Le magistrat est ancien consistoire. Et il s'occupe avec le pasteur, etc. C'est impensable de nos jours. De nos jours, c'est impensable. Hein? Les gens et Eric Dex disent, nous avons un maire qui est de chez nous, et Eric, etc. Moi, je ne vais jamais à Eric Dex, mais je n'ai pas l'impression que ce maire y va tous les dimanches. Alors quand je dis ça, on finit par me dire, oui, mais la mairesse vient tous les 15 mois, etc., ou tous les mois. Bon. Mais en fait, vous comprenez, tout ceci, c'est tout à fait différent de ce qu'on vit au Moyen-Âge, où le magistrat était tous les dimanches au culte, si vous achetez le best-seller, qui s'appelle Martial en Languedoc, eh bien, vous vous rendrez compte que les conseils politiques de la mairie, de la municipalité, ont lieu à Martiac dans le temple. Comme la mairie est en réparation, trop petite, etc., le conseil municipal se réunit dans le temple.
Et en même temps, eh bien, on délibère pour la paroisse et pour l'État, quoi. On fait les deux, parce qu'on vit dans un autre régime.
Et comment le monde protestantisme, bon, suite à tout ce que vous avez appris en post-coquille français, ne va pas remettre en cause ça, parce qu'il y aura ensuite une persécution, c'est un bien religieux.
Eh bien, c'est beaucoup plus étonnant qu'on le pense. Par exemple, ils ont gardé les deux derniers articles. Ces deux derniers articles, qu'on mettrait aujourd'hui très facilement dans le vide d'ordure, sont maintenus non seulement au XVIe siècle, mais encore en effet au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. En 1715, vous avez Louis XIV qui se meurt à Versailles et qui est le persécuteur avec un des majuscules. Il se meurt à Versailles et vous avez en même temps un synode qui se réunit à Monoblet, près de Saint-Hippolyte du Fort, et qui est là, qui jeûne et prie pour le rétablissement de la santé du roi. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on serait tenté de dire, bon, ben, qui crève. Pas, c'est le persécuteur qui crève. Eh bien, là-bas, non. On dit, bon, ben, que Dieu rétablisse notre roi avec les chrétiens, et c'est ça. Et c'est ça. On a du mal à le penser, à le croire, ça, aujourd'hui. Les protestants et tous les pasteurs unanimement du XVIIe siècle sont des pasteurs qui sont royalistes. Au XVIIe siècle, on est royaliste lorsqu'on est pasteur. Et ils ne sont pas royalistes parce qu'ils vivent dans un état de fait qui est royaliste. Mais ils sont royalistes parce qu'ils pensent que c'est bon. Et pourtant, le roi ne fait que les persécuter du matin au soir, ou à peu près. Mais ils sont quand même en obéissance. Et c'est tout à fait extraordinaire. C'est un fait d'histoire, c'est pas une interprétation que je donne. Je dirais, si à partir du moment où on fait ça, c'est un fait d'histoire, là, oui.
C'est
une fête
obligatoire.
Qui?
Donc on se parle, meurt.
Louis XIV. Non, Louis XIV se meurt en 1715, et on fait un synode spécial, et on prie pour le rétablissement du roi. Et on est sérieux, on le pense. Parce qu'on est soumis à l'autorité, comme même au moins à travers le feu, quoi. C'est tout à fait étonnant.